Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Top actuel ressources humaines RH 2026-2027 de Hamza Merabet est un guide de révision et de référence professionnelle publié chez Hachette Éducation dans la collection Top actuel. Son format bref de 64 pages indique une ambition de synthèse, condenser les notions, techniques et enjeux à connaître pour comprendre la fonction ressources humaines. L'ouvrage couvre le parcours du salarié, la rémunération, les relations professionnelles, la qualité de vie et des conditions de travail, le pilotage de la performance RH, la responsabilité sociétale des entreprises et la transformation stratégique de la fonction. Il ne se présente donc pas comme un traité universitaire approfondi, ni comme un manuel de procédure exhaustif. Sa vocation est de proposer un repérage structuré des principaux domaines RH dans une édition actualisée pour 2026-2027. Destiné notamment aux étudiants, aux personnes en formation continue et aux professionnels, il relie les opérations de gestion des salariés aux évolutions contemporaines, dialogue social, numérique, intelligence artificielle, égalité professionnelle et conduite du changement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le parcours du salarié comme fil directeur de la fonction RH, le livre place le parcours professionnel du salarié parmi les axes centraux de la gestion des ressources humaines. Cette approche relie des activités souvent étudiées séparément: recrutement, intégration, formation, motivation et évaluation. Leur enchaînement a une logique opérationnelle. Recruter ne consiste pas uniquement à pourvoir un poste, car la qualité de la sélection influence ensuite les besoins de soutien, de développement des compétences et de fidélisation. L'intégration constitue à son tour un moment décisif pour rendre les attentes du poste, les règles collectives et les repères de travail compréhensibles. La formation répond à la fois aux besoins immédiats de l'organisation et à l'évolution professionnelle des personnes. Motivation et évaluation ne sont pas des mécanismes isolés, elles renvoient à la reconnaissance, à la clarté des objectifs et à la perception de l'équité. En regroupant ces dimensions, l'ouvrage invite à considérer le salarié sur la durée plutôt qu'au travers de dossiers administratifs successifs. Pour un étudiant ou un praticien débutant, ce cadre aide à comprendre que les décisions prises à une étape du parcours produisent des effets sur les suivantes. La concision du format suppose néanmoins de compléter les points juridiques, les outils de sélection ou les méthodes d'entretien par des sources spécialisées lorsque la situation exige un traitement détaillé. Deuxièmement, rémunération et masse salariale conciliée attractivité, équité et maîtrise des coûts. La rémunération est présentée à travers deux exigences qui peuvent entrer en tension, maîtriser la masse salariale et mettre en place une politique adaptée. La masse salariale représente un enjeu de pilotage puisqu'elle pèse directement sur les coûts de l'organisation. Mais une lecture limitée au budget manquerait la fonction RH de la rémunération. Celle-ci intervient aussi dans l'attractivité des emplois, la reconnaissance des contributions et la fidélisation. Une politique cohérente suppose donc d'articuler le niveau de rémunération, ses composantes éventuelles et les critères qui permettent de les justifier. Le point important est celui de la lisibilité des règles insuffisamment comprises peuvent nourrir un sentiment d'inégalité, même lorsqu'elles répondent à une contrainte économique réelle. A l'inverse, une politique généreuse mais non soutenable fragilise la capacité de l'organisation à durer. Le traitement synthétique annoncé par le livre est utile pour distinguer l'objectif de contrôle budgétaire de l'objectif de mobilisation des salariés sans les opposer artificiellement. Il rappelle aussi que les choix de rémunération doivent être examinés à la lumière de l'égalité professionnelle et des pratiques collectives. Ce n'est pas un guide de paix complet. Son apport est surtout d'installer des repères pour analyser la rémunération comme un levier à la fois financier, social et managérial. Troisièmement, relations professionnelles, faire du dialogue social un outil de prévention. La maîtrise des relations professionnelles constitue un autre domaine explicitement couvert, avec l'objectif de renforcer le dialogue social et de gérer les conflits. Ce thème rappelle que la fonction RH ne se réduit pas à l'accompagnement individuel. Elle intervient aussi dans un cadre collectif où se rencontrent intérêts des salariés, contraintes de l'employeur, représentants du personnel et règles du travail. Le dialogue social a une utilité préventive, il permet de rendre visibles des difficultés liées à l'organisation, aux conditions de travail ou aux changements envisagés avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts. Gérer un conflit ne signifie pas seulement réagir à une crise. Cela suppose de clarifier les faits, d'identifier les points de désaccord, de préserver des canaux d'échange et de rechercher des solutions compatibles avec les règles applicables. Dans une synthèse RH, cette perspective est essentielle car elle relie les relations professionnelles aux autres décisions, une réorganisation, une évolution de la rémunération ou le développement du travail à distance ont des conséquences collectives. Le livre semble ainsi fournir un cadre de repérage plutôt qu'une étude exhaustive du droit social. Le lecteur y gagne une vision fonctionnelle des enjeux. mais devra consulter des textes juridiques actualisés et, selon le cas, des conseils compétents pour toute décision ayant des effets légaux précis. La valeur du thème réside dans le refus de traiter les conflits comme de simples incidents de communication. Quatrièmement, qualité de vie. Santé et travail à distance dans les conditions de travail, le livre associe la qualité de vie et des conditions de travail à la santé, à la sécurité et aux ressources humaines à distance. Ce rapprochement est significatif, le bien-être au travail ne peut pas être séparé de la manière dont le travail est réellement organisé. Les risques pour la santé et la sécurité, la charge de travail, l'accès aux outils, l'autonomie et l'isolement éventuel des salariés à distance sont autant de variables RH. Le travail à distance modifie notamment les pratiques de suivi, de communication et de coopération. Il peut apporter davantage de souplesse, mais il impose aussi de préserver des repères collectifs et de ne pas confondre disponibilité numérique permanente et performance. L'ouvrage traite ce sujet dans le cadre plus large des conditions de travail, ce qui évite de réduire le télétravail à une simple question technique. Une politique RH crédible doit intégrer les effets concrets des modes de travail sur les personnes, tout en tenant compte des impératifs de continuité et de coordination de l'activité. Pour la révision, cet axe aide à relier les notions de prévention, d'organisation et de management. Pour la pratique, il incite à examiner les dispositifs à partir de leurs conséquences plutôt que de leurs seules intentions. La brièveté du livre en fait une porte d'entrée utile, mais elle ne remplace pas les démarches de prévention, les règles applicables, ni l'analyse des situations de travail propres à chaque organisation. En dernier lieu, pilotage RH, RSE et transformation numérique de la fonction, la dernière orientation majeure est stratégique. Le livre mentionne le suivi et le pilotage de la performance RH, la RSE, l'égalité entre les femmes et les hommes, les différences générationnelles, la transformation numérique, l'intelligence artificielle au service des RH et la conduite du changement. Ces thèmes montrent que la fonction RH est envisagée comme une fonction de pilotage et non seulement comme un centre administratif. Suivre la performance RH consiste à disposer d'informations permettant d'apprécier les effets des politiques menées, par exemple sur les compétences, la mobilité, la fidélisation ou les conditions de travail. La RSE élargit la perspective en reliant les décisions RH à des responsabilités sociales concrètes, notamment l'égalité professionnelle et la gestion inclusive de collectifs divers. La numérisation et l'intelligence artificielle peuvent améliorer le traitement de l'information ou l'accès à certains services, mais elles n'éliminent pas la nécessité de jugement humain, de transparence et de conduite du changement. Toute transformation modifie les pratiques et peut susciter des inquiétudes. Elle exige donc communication, accompagnement et dialogue. Dans un format de poche, la force de cet ensemble est de mettre les enjeux actuels sur une même carte conceptuelle. Sa limite est inhérente à son ambition synthétique, les choix d'outils numériques. Les indicateurs et les questions de gouvernance demandent une analyse plus approfondie dans les organisations qui les déploient. En conclusion, Top Actuel Ressources Humaines RH 2026-2027 convient en priorité aux étudiants en gestion, commerce ou filière tertiaire qui souhaitent acquérir une vue de ensemble rapidement exploitable. Il peut aussi servir aux personnes en formation continue, aux candidats à des examens et aux professionnels non spécialistes qui ont besoin de réviser le vocabulaire et les grands champs de la fonction RH. Son bénéfice pratique tient à son organisation condensée. Le lecteur peut situer les liens entre recrutement, formation, rémunération, relations collectives, conditions de travail et pilotage. Cette mise en relation est particulièrement utile pour éviter une vision fragmentée des ressources humaines. L'ouvrage offre également un repère actuel en intégrant la RSE, le travail à distance, l'égalité professionnelle, la transformation numérique et l'intelligence artificielle parmi les enjeux de la fonction. Par rapport à un manuel universitaire ou à un ouvrage juridique spécialisé, il se distingue moins par l'approfondissement théorique que par son format court, sa vocation de mémorisation et son actualisation annuelle. Il ne doit pas être employé seul pour résoudre une question juridique complexe, construire une politique de rémunération détaillée ou déployer un système numérique. En revanche, il constitue un support pertinent pour préparer une révision, cadrer un sujet professionnel ou identifier les domaines à approfondir. Sa spécificité réside dans cette combinaison de synthèse pédagogique, d'orientation opérationnelle et d'attention aux transformations contemporaines du travail. Si vous souhaitez soutenir Hamza Merabet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.